sur le fait que différents types de focalisations peuvent se retrouver au sein d'un même texte. C'était très juste et vous le sentez d'autant plus maintenant que vous avez vraiment travaillé sur le texte. Donc vraiment n'ayez pas de problème par rapport à cet exercice. Hein. C'est vraiment juste un exercice qui n'a pour moi aucune signification particulière. Mais vous les avez remis vos exercices, hein? Vous pouviez les prendre, hein? Avec vous? Vous les avez pris ou vous les avez remis? Remis? Pris. D'accord, mais je sais pas, il en reste vraiment beaucoup, c'est pour ça. Voilà. Oui, bien sûr. Oui? Oui? Est-ce que c'est grave? Non, alors je vais répéter votre question pour tout le monde. Alors, déjà, par rapport aux commentaires que je vous ai demandé de vous rendre pour aujourd'hui, est-ce que vous avez bien vu où s'arrêtait le texte, hein? Il s'arrête au mot soleil. C'est bon? Alors, une jeune fille. Une jeune fille m'a demandé, vient de me demander, si lorsqu'elle fait un commentaire et qu'elle choisit des axes qui sont différents des miens, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une faute? Non. Non, parce que du moment que le commentaire se tient, qu'il dit des choses pertinentes sur le texte, vous voyez tout ce que je vous ai dit sur le texte en choisissant un certain type d'axes, j'aurais pu choisir mais plein d'autres types de plans possibles. Hein, vous voyez? C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de réussir au final à rassembler des idées intéressantes qu'on tire du texte, réussir à les rassembler en leur donnant sens dans un certain type d'axe, hein, en les rassemblant sous un axe. Après, ces axes, il n'y a pas une vérité sur les axes à choisir. Hein, donc c'est une très bonne question et voilà, j'y réponds. Est-ce que, alors, il y a une de vos camarades qui m'a dit qu'elle avait eu beau lire plein de fois le texte, elle ne voyait qu'un seul axe. Comment faire pour trouver les trois axes du texte? Alors, ce qu'il faut faire, c'est lire le texte, noter ce qu'il veut dire, et le lire plusieurs fois en notant les idées qui nous viennent en le lisant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que le narrateur veut dire? Par quels moyens il passe? Comment est-ce qu'il construit son texte? Quelles sont les différentes parties de son texte? Etc. Et à force de faire ce travail, au bout de plusieurs lectures, on finit par voir trois axes se dégager. Mais c'est sûr que ça reste un exercice très difficile, le commentaire. Et sur la façon dont on peut trouver des axes, il n'y a pas vraiment de méthode au sens scientifique. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le repérage le plus précis. Vous rentrez dans le détail du texte. Pour repérer la structure des phrases, comment est-ce qu'elles se constituent. Oui?
Mais en fait, tous les textes sont différents. Pourquoi dans tous les textes, il y a souvent trois axes?
Alors, pourquoi est-ce que...
Bien sûr.
Non, mais tout à fait. Eh bien, parce que la méthode française a décidé que la pensée se développait en trois temps, et donc que l'on ferait des dissertations et des commentaires en trois temps. Donc, le commentaire composé, c'est le développement de cette pensée dialectique en trois parties. Pourquoi? Pour rien, juste parce que c'est à vous. Voilà. Alors, on continue? Vous allez prendre maintenant. Asseyez-vous. J'espère que vous avez pu en profiter pour vous dire tout ce que vous aviez à vous dire pendant la pause. Alors, vous allez prendre le texte, j'espère que vous l'avez avec vous, le texte qui s'intitule texte numéro 2 et qui commence par « Ah, si Albertine avait vécu ». Alors, est-ce que tout le monde a mis son nom sur la feuille de présence? Alors, Qui ne l'a pas, le texte? Alors, vous pouvez essayer de vous les faire passer, de vous mettre les uns à côté des autres pour suivre à plusieurs. Hein, déplacez-vous dans la salle pour être à côté de quelqu'un qui a le texte. Bon, moi j'ai un texte à donner. Donc vous deux, aucun. Non mais déplacez-vous hein, pour trouver. Ah vous avez trouvé le texte? Eh bien, quelle conclusion à l'histoire? Alors. Donc s'il vous plaît. C'est bon, je peux y aller? Ah. Ne riez pas, c'est extrêmement dur de trouver le ton juste pour dire ce A. Ah. Si Albertine avait vécu. On se trouve, dès le début de ce texte, on se trouve dans de l'irréel. La conjonction si indique que le narrateur, est-ce que tout le monde est à côté de quelqu'un qui a le texte? Non? À vous trois, aucun a le texte? Alors, là, je vois que ce n'est pas un monsieur qui est seul avec son texte. Alors, quelqu'un peut se déplacer à côté de lui. Je sens que ça va faire exactement comme pour les deux monsieur du fond, vous allez me dire, non, non, finalement, j'ai trouvé le texte. Bon, vous trois, vous ne l'avez pas. Ensuite, qui d'autre ne l'a pas? Vous deux, vous ne l'avez pas. Et vous deux, derrière, vous n'avez pas. Bon. Alors, de toute façon, ce texte, je vous ai envoyé encore les textes qui correspondent au cours sur le mail pro. Si? J'ai envoyé? Non. Oui, j'ai envoyé? Ah oui, donc j'ai fait, mais ça, pas encore. De toute façon, ces textes, vous les trouverez sur le mail du cours. Donc là, je vais le lire. Essayez d'être très attentif. Allez. Vous éteignez les portables, vous arrêtez de, je sais pas, de sortir 20 000 papiers, vous voyez, les papiers qui volent. Alors. Alors, je vais le reprendre le A. A. Si Albertine avait dans le début de ce texte, le. C'est fini, je ne sais pas ce qui se passe, ça a une ça échange de place. Bon, alors, le narrateur, au début du texte, se place en imaginant que Albertine n'est pas morte. Il se place donc dans un irréel, hein, puisque Albertine est morte, mais il imagine, il commence à fantastique. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un bruit, vous avez dit que je repose mes yeux sur le texte, j'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Si Albertine avait vécu, qu'il eût été doux, hein, donc on continue à être dans le conditionnel. Première condition, il faudrait qu'Albertine ne soit pas morte. Or, Albertine est morte. Et deuxième condition, si elle avait été vivante, on aurait pu faire ça et ça aurait été agréable. Hein. Donc on est dans une suite de conditions, d'hypothèses et d'irréels. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, vous communiquez tous. C'est bon, vous avez fini, je ne sais pas, vous faites passer quelque chose. Bon. Qu'il eût été doux les soirs où j'aurais dîné en ville, de lui donner rendez-vous dehors, sous les arcades. Alors, voyez, la phrase commence par de l'irréel. Et il faudrait que la condition pour tout cela, c'est que Albertine vive. Et progressivement, le fait que l'on passe du conditionnel au mode infinitif, lui donner rendez-vous, rend plus réelle la scène. Je ferme la porte. D'abord, je n'aurais rien vu. Donc là, le narrateur s'imagine déjà dans la scène. Il s'imagine ayant un rendez-vous avec Albertine. Et il dit que d'abord, il n'aurait rien vu. J'aurais l'émotion de croire qu'elle avait manqué au rendez-vous. Donc je me mettrais à avoir peur. Le fait qu'ici il soit question d'émotion montre que le narrateur n'est déjà plus en train d'imaginer si Albertine est vivante ou pas, mais il se met à vivre la scène avec une telle intensité qu'il en a l'émotion. J'aurais l'émotion de croire qu'elle avait manqué au rendez-vous. Donc il se mettrait à avoir peur. Alors, mademoiselle à qui j'ai donné un texte, c'est pour envoyer des SMS. C'est Monsieur Ravat, hein, comme j'ai entendu dire récemment, qu'elle avait manqué au rendez-vous quand tout à coup, j'eusse vu se détacher du mur noir une de ses chères robes grises. Ses yeux souriants qui m'avaient aperçu. Et nous aurions pu nous promener enlacés sans que personne nous distinguât. Alors, ici, la scène commence. Le narrateur est en train de se promener dans Paris, Paris qui est en guerre. Et comme la ville est en guerre, il y a ce qu'on appelle le soir un couvre-feu. Ça veut dire que tout le monde doit éteindre les lumières pour ne pas que les ennemis puissent nous voir. Donc, le narrateur marche dans la ville qui est dans le noir. Ce qui est intéressant, c'est que le texte commence dans l'obscurité, dans le noir, hein, un petit peu comme le noir de l'oubli. Et progressivement, dans cette obscurité, il commence à fantasmer et à s'imaginer ce qui se passerait, hein, donc on est dans l'ordre du fantasme, si Albertine était encore vivante et qu'il se promenait avec elle dans cette obscurité. Ici, je vous demande de noter tout ce qui se rapporte à l'obscurité, au noir, à l'absence de lumière. Parce que cela connote à la fois l'obscurité de l'oubli, l'obscurité du souvenir, puisqu'il va chercher en même temps dans sa mémoire, il va chercher des souvenirs, hein, et sa mémoire, elle est aussi obscurcie que la ville qui l'entoure. Première chose. Et deuxième chose, je vous demande de noter que Albertine, elle se détache du mur noir. Hein, et c'est même pas elle, elle est une de ses robes grises. Hein. Donc ici, c'est une synecdoque, c'est-à-dire que le narrateur emploie pour parler d'une personne, il emploie une partie de cette personne. Hein? Donc, par exemple, dire « je bois un verre », c'est faire une synecdoque. Je bois l'eau qui est dans le verre, mais j'emploie le contenant pour parler du contenu. Et ici, le narrateur fait la même chose. Il parle du contenant, il voit se détacher une robe pour parler du contenu, Albertine. Ici, cette synecdoque, elle est très importante. Alors, vous voulez que j'écrive le mot synecdoque au tableau? Oui? Oui, pardon, métonymie. La synecdoque, c'est qu'elle était une... Donc, vous savez que la distinction entre les deux est très fine. C'est la suite du texte qui va pouvoir nous dire plutôt s'il faut parler de synecdoque ou de métonymie. De toute façon, nous ferons un point sur ces deux notions la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Une métonymie, effectivement, dire je bois un verre, c'est une métonymie. On fera un point sur cette question la semaine prochaine. Pour le moment, ce qui est intéressant à noter, c'est que ici, le narrateur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rigole, ça bouge là, mademoiselle? Ici, le narrateur ne parle pas de la personne, il ne nomme pas Albertine, il la nomme par ce qui la contient, sa robe. Comme si donc, la présence d'Albertine se présente à nous sous la forme d'une présence absente, puisqu'on ne la voit pas, on voit sa robe. Et à quelle image est-ce que ça vous fait penser de ne voir que l'habit d'une personne sans voir l'être qui est dedans? Un spectre, très bien, un spectre, exactement. Donc, dès le début de ce texte, toute la tonalité nous est donnée parce que le narrateur, donc, qui évoque Albertine, nous l'évoque comme, il l'imagine, mais dans son imagination déjà, Albertine se présente un peu comme un fantôme. Le fait qu'elle se détache du noir, c'est le fait qu'elle se détache à la fois du souvenir, l'oubli qui est dans le noir, elle vient se détacher de l'oubli pour se rendre au narrateur, dans le présent du narrateur. Vous comprenez cette idée de l'oubli qui est noir? Et ici, le fait que la robe d'Albertine se détache du noir, c'est comme si elle se détachait de l'oubli pour venir apparaître. Vous comprenez bien cette idée? Et en même temps, le fait que juste sa robe, comme un spectre, sorte du noir, cela fait penser à quoi aussi? De quoi d'autre elle pourrait sortir? De la tombe, de la mort. Il y a aussi la présence d'Albertine, elle nous est rendue comme un spectre qui sort de la mort, de la tombe, du noir de la mort. Vous voyez en quoi le choix du mot, du vocabulaire, influe déjà sur la façon dont on se représente Albertine. Là, dès le début, la présence d'Albertine nous est donnée comme une revenante à la frontière entre présence et absente, entre réel et irréel. Vous voyez, non? Alors, je continue la lecture du texte. Hélas, j'étais seule et je me faisais l'effet. Ah oui, pardon, excusez-moi, encore une autre petite chose que je voulais vous dire, c'est le fait que la robe se détache du mur noir. Est-ce que cela vous fait penser à un procédé technique? Lorsqu'on voit progressivement une image apparaître. À la photographie, exactement. La métaphore de la photographie va être présente dans tout ce texte. Lorsqu'on développe une photographie, on est dans une chambre noire, exactement comme le narrateur dans le texte, et l'on voit progressivement apparaître l'image sur la photo que l'on développe. Donc ici, c'est comme si la présence d'Albertine lui était rendue par un instantané de photographie, par le développement d'une photographie. Est-ce que vous comprenez cette idée? Oui. Cela rend la présence d'Albertine encore plus fantomale. Hein? Elle a comme une photographie à la frontière de la présence réelle et de l'image. Hein? Est-ce que Albertine lui est rendue comme une présence ou est-ce qu'elle lui est rendue comme une image, comme un souvenir? Oui, mais le texte joue sur l'ambiguïté, justement. Hein? Le texte joue sur l'ambiguïté parce que lorsqu'on voit l'image d'une personne sur une photographie, on ne voit pas la personne. Mais en même temps, on voit une certaine présence de la personne. Et ici, c'est comme si Albertine lui était rendue à la fois sous forme fantomale, en même temps sous la forme d'une photographie. Donc, de toute façon, on est sur un mode de présence qui est à la frontière entre la présence et l'absence. Je continue. Hélas, j'étais seule et je me faisais l'effet. Alors, j'étais seule, donc là, le narrateur est rendu à la réalité de la situation présente. Le mode utilisé est à nouveau l'indicatif. J'étais seule et je me faisais l'effet. Je me faisais l'effet de. Le narrateur compare sa situation à une autre situation. Je me faisais l'effet d'aller faire une visite de voisin à la campagne. Alors ici, on a une transposition à la fois de situation, puisqu'il se compare à quelqu'un allant faire une visite à un voisin à la campagne. Et deuxièmement, on a une transposition de lieu, une transposition spatiale, puisque là, le narrateur, quand il parle, il est en ville, et là, il se transpose à la campagne. Parfaite comparaison. J'ai perdu ma ligne. De ces visites, comme Swann venait nous en faire après le dîner. Là, on a à nouveau une transposition. La comparaison est continuée. Il continue à l'approfondir en approfondissant la transposition, puisque nous sommes non seulement transposés dans la situation, nous sommes transposés spatialement, nous sommes passés de la ville à la campagne, et nous sommes désormais transposés temporellement, puisque nous sommes ramenés à l'enfance du narrateur, quand Swann venait faire des visites. Et le narrateur lui-même est transposé dans la peau de Swann, puisqu'il est transposé dans la peau de Swann qui va faire des visites au narrateur enfant et à sa famille. Sans rencontrer plus de passants dans l'obscurité de Tansonville, Swann, il ne rencontrait pas plus de passants dans l'obscurité de Tansonville par le petit chemin de Halage jusqu'à la rue du Saint-Esprit. Nous sommes là à Tansonville, à la campagne, dans la situation vécue par Swann. Donc le narrateur nous introduit dans un autre lieu. Il fait une transposition de lieu et d'espace au sein de la même phrase. Vous voyez, la structure de la phrase va contenir différents espaces, nous faire de façon incessante des transpositions de lieu et d'espace. Donc, il n'en rencontrait pas plus, Swann, que le narrateur, je n'en rencontrais maintenant, donc maintenant dans les rues de Paris, dans les rues devenues de sinueux chemins rustiques. Ici, le narrateur, qui est donc à Paris, fait à nouveau une comparaison. Les rues de Paris sont comparées à des rues de la campagne, des chemins rustiques. Donc il compare les rues de Paris, il fait une transposition, les rues de la ville deviennent des rues de la campagne. Dans les rue devenue de sinueux chemin rustique de Sainte-Clotilde à la rue Bonaparte, qui sont des rues parisiennes. D'ailleurs, comme ces fragments de paysage que le temps fait voyager. Allez. Ici, le narrateur voir le paysage se présenter à lui sous la forme de fragments, n'était plus contrarié par un cadre devenu invisible. Donc ici, le narrateur voit les rues devant lui, il ne voit pas, il a perdu le cadre général qui est le cadre de la ville. L'idée qu'il se trouve dans une ville, il a perdu ce cadre général et le paysage ne lui apparaît que sous la forme de fragments. D'accord ? L'idée qu'il ne voit la réalité que sous la forme de fragments et que du coup ces fragments peuvent voyager dans le temps, hein, puisqu'il peut rapprocher ce fragment d'un autre fragment qu'il a vu ailleurs à une autre époque, ce qu'il vient de faire exactement là, hein, puisqu'il a rapproché le fragment de Paris à un fragment de Tansonville. Et donc la situation présente à une situation de son enfance. Le fait de ne voir la réalité que par fragments, nous avons ici à nouveau une interrogation sur le regard nouveau apporté par l'image photographique. La photo nous fait voir le réel sous la forme d'un fragment. Hein, la photo prend un cadre, la photo prend un fragment du réel. Et effectivement, les photos vont nous permettre de comparer différents lieux qui se trouvent très loin. Par exemple, une photo prise dans une forêt des Alpes va pouvoir être comparée à une photo prise dans une forêt de Sibérie. Hein? Ce sont deux fragments du réel que la photo a pris et qui vont nous permettre de faire des comparaisons et de faire voyager un lieu dans le temps et dans l'espace. Donc ici, le narrateur continue la métaphore de la photographie. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Donc vous comprenez ce que signifie la phrase « Comme ces fragments de paysage que le temps fait voyager n'étaient plus contrariés par un cadre devenu invisible. » Donc ici, ce qui est important aussi, c'est de noter le fait que le cadre est devenu invisible, c'est-à-dire que le narrateur montre qu'il est entré dans un certain regard et que tout ce qui entoure le fragment de ce qu'il voit, eh bien, est devenu comme invisible. Il est entouré par un halo d'invisibilité. Et cela va être une image, c'est insupportable, c'est Porte Grince. Ici, on n'oublie pas le cadre, hein. Il ne devient pas invisible. Le narrateur ne voit le réel que dans une image générale, un cadre général qui est invisible. Donc, du visible vient se détacher de l'invisible. Hein, on a une opposition entre visible et invisible qui va tenir durant tout le texte. Et ici, ce que le narrateur nous dit, c'est que, en fait, tout ce qu'il va voir du réel va être comme quelque chose qui va se détacher de l'invisible. Se détacher de l'invisible, pourquoi ? Premièrement, de façon toute simple, parce qu'il est dans le noir. Donc tout autour de lui est comme invisible. Hein, quand on marche dans une rue dans le noir, les lampadaires n'éclairent qu'un fragment des choses, comme si le cadre entier était devenu invisible puisqu'il est tout noir. Mais ici, ce qui est important aussi, c'est que cet invisible général, progressivement, on va comprendre dans le texte, c'est l'invisible de l'oubli. Puisqu'il se souvient d'Albertine, il va faire revivre Albertine dans ce texte, et Albertine va revivre par fragments, mais dans un contexte général qui est celui de l'invisible de l'oubli. Et troisième niveau d'invisible, c'est l'invisible de la mort. Le fait qu'il soit dans le noir dans ce texte le rend plus proche de la tombe où se trouve Albertine dans l'au-delà tout noir de la mort. Vous voyez ? C'est-à-dire que la présence d'Albertine va pouvoir être rendue de façon plus forte du fait que le narrateur se trouve, comme Albertine, dans le noir de la mort. Hein? Et donc, qu'il est plus proche, le fait que tout autour de lui est invisible, c'est comme si la mort aussi était proche de lui. La mort qui rend les êtres invisibles. Et c'est pour ça que le narrateur, dans tout ce texte, est à la frontière entre le visible et l'invisible. Et c'est ce qui va lui permettre de voir se distinguer dans cet invisible l'invisible même, qui est celui du revenant, la personne morte qui revient sur Terre, et qui ici revient sous la forme d'Albertine. Hein? Tout, ça va, tout est clair? Oui? Donc je continue. Les soirs où le vent chassait un grain glacial, je me croyais bien plus au bord de la mer furieuse, dont j'avais jadis tant rêvé que je ne m'y étais senti à Balbec. Lorsqu'il était à Balbec, il était proche de la mer. Mais ici, lorsqu'il est dans la rue, il a l'impression d'être plus proche de la mer que lorsqu'il était proche de la mer, hein, parce qu'il y a un vent glacial qui lui rappelle la mer. Hein. Et le fait qu'il soit dans l'obscurité et qu'il ne voit pas le cadre, il ne voit pas le cadre de la ville. Donc, il peut avoir la sensation d'être proche de la mer. Et même d'autres éléments de nature qui n'existaient pas jusque-là à Paris faisaient croire qu'on venait, donc faisaient croire que, on va être à nouveau dans la comparaison, on venait, descendant du train, d'arriver pour les vacances en pleine campagne. On a à nouveau une transposition de la ville à la campagne. Là, il a l'impression, en voyant des éléments de nature hein, sous les lampadaires, il a l'impression de voir des. Il a l'impression de voir d'être à la campagne, donc de voir des morceaux de campagne dans la ville. Par exemple, le contraste de lumière et d'ombre qu'on avait à côté de soi, par terre, les soirs. Au clair de lune. Donc ici, ce qui lui rappelle la campagne, c'est la lumière particulière de la lune qui va venir créer un contraste de lumière et d'ombre. Et ici, ce qui est intéressant, c'est le fait que le narrateur note ce contraste entre la lumière et l'ombre. La lumière, c'est celle un peu irréelle de la lune. Hein, la lumière de la lune, on ne peut pas dire que ce soit une lumière très brillante. On est dans la lumière lunaire, et la lune, c'est un astre qui nous rappelle aussi l'au-delà, c'est un astre qui est aussi proche de la mort. Hein. Et donc ici, on va continuer, par cette description, à être à la frontière entre le réel et l'irréel, la vie et la mort. Le contraste de lumière et d'ombre. Celui-ci, donc ce contraste, il donnait de ses effets que les villes ne connaissent pas. Donc ce contraste, normalement, on ne le voit pas en ville, on ne le voit qu'à la campagne. Et même en plein hiver. Ces rayons, donc les rayons de la lune, s'étalaient sur la neige. Donc on est, ça tombe bien, hein, puisque ce soir, nous-mêmes, on peut se représenter, étant à Moscou en plein hiver, on peut se représenter très bien le narrateur qui est un soir d'hiver dans une ville. Hein. C'est les rayons de la lune, ils s'étalent sur la neige et aucun travailleur ne vient plus balayer cette neige. Donc elle est très forte, cette neige, dans la ville de Paris. Boulevard Haussmann, ils ne viennent pas balayer cette neige alors que, et on est à nouveau transposé dans un autre lieu, des balayeurs, ils auraient balayé cette neige si on avait été dans les Alpes. Hein, donc, transposition à la campagne. Mais là, la neige, elle est très présente. Donc, il y a à nouveau un contraste hein, entre la blancheur de la neige et l'obscurité de la ville. Et le fait que la lumière lunaire vient mettre en évidence, souligner la blancheur de la neige qui se détache de façon un peu irréelle sur ce fond d'obscurité. Les silhouettes des arbres. Donc les silhouettes des arbres, cela signifie les ombres des arbres. Hein? Et là, le fait de parler de silhouettes des arbres, c'est personnifier un peu les arbres. Normalement, silhouette, c'est un terme que l'on emprunte, que l'on utilise plus pour parler d'un être humain. Quand un être humain voit son ombre quelque part, il peut parler de sa silhouette. Et normalement, pour un arbre, on parle plutôt d'une ombre. Et ici, le fait de parler de la silhouette d'un arbre, c'est un peu personnifier l'arbre. C'est donner de la vie à l'arbre. Et la silhouette de l'arbre, eh bien, vous voyez, s'il avait parlé de la silhouette d'une maison, on aurait vu un gros bloc. Ici, le fait qu'il parle de la silhouette d'un arbre, eh bien, la silhouette d'un arbre, elle ressemble à la silhouette de quoi ?
De la croix sur la tombe.
De la croix sur la tombe, alors oui, en allant chercher, ouais. Et elle ressemble aussi à autre chose.
D'une femme.
D'une femme, voilà, très bien. Le fait ici que le narrateur parle non pas des ombres des arbres, mais des silhouettes des arbres qui se reflètent, eh bien, il joue aussi sur cette présence-absence d'Albertine à travers le terme de silhouette qui est profondément féminin. Et on peut d'ailleurs voir ici un écho entre les silhouettes des arbres qui se reflètent nettes et pures sur la neige. On a à nouveau une ombre noire qui vient se projeter et qui vient apparaître, mais sous la forme d'une ombre. Et comme la robe au début du texte qui évoquait Albertine, on a un écho à cette robe, c'est-à-dire cette présence, mais cette présence extrêmement faible sous la forme d'ombre, sous la forme de silhouette de Albertine, qui est ici à la frontière entre la présence et l'absence. Tout le monde a bien compris en quoi les silhouettes des arbres étaient une évocation de la présence fantomale d'Albertine. Les silhouettes des arbres se reflétaient nettes et pures. Alors ici, la pureté est aussi une évocation de la pureté d'Albertine. Normalement, l'adjectif pur, on l'emploie pour parler d'une personne, pas d'un arbre, de l'ombre d'un arbre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ici, il y a comme une inversion des termes, puisque normalement, on parle de pureté, on associe à la pureté la blancheur. Donc la pureté ici devrait être associée à la neige. Et ici, au contraire, la pureté est associée au noir. Normalement, on n'associe pas la pureté au noir. Ici, la pureté est associée au noir de la silhouette. La silhouette de l'arbre. Donc, on a envie de voir la présence dans cette silhouette. On a envie de voir l'image de la silhouette d'Albertine. Albertine revenant pure du monde invisible. Sur cette neige d'or bleutée, avec la délicatesse qu'elles ont dans certaines peintures japonaises ou dans certains fonds de Raphaël. Donc ces silhouettes, elles étaient allongées à terre, au pied de l'arbre lui-même. Ici, le fait d'employer le verbe « être allongé » c'est un verbe que l'on emploie aussi uniquement pour parler des êtres vivants. À quoi est-ce que vous pensez dans l'idée de ces silhouettes qui sont allongées par terre au pied de l'arbre ? Cadavre, exactement, très bien, c'est ça. Ici, il y a aussi une évocation, une suggestion du cadavre d'Albertine, allongé, qui gît. C'est pour vous montrer combien la présence d'Albertine va nous accompagner dans tout le texte, mais sous la forme de toujours visible, invisible, présence, absence. Elles étaient allongées à terre, au pied de l'arbre lui-même, comme on les voit souvent dans la nature, au soleil couchant. Quand celui-ci inonde et rend réfléchissantes les prairies. Donc ici, les ombres, elles sont aussi nettes que lorsqu'on les voit normalement sous le soleil. Alors qu'ici, on les voit sous la lumière de la lune. Et ici, tout d'un coup, on est transposé sous un autre type de paysage. On était dans la nuit, on est transposé dans le jour. Sous le soleil qui inonde la nature. Mais par un raffinement d'une délicatesse délicieuse, la prairie sur laquelle se développaient ces ombres d'arbres. Alors ici, les ombres des arbres, elles se développent comme on développe une image photographique. Le verbe se développer est un terme technique photographique. Hein. Normalement, des ombres ne peuvent pas se développer sur une prairie. Ici, il y a une métaphore photographique qui nous renvoie à cette image de la photo, comme si progressivement les ombres apparaissaient dans la prairie, comme sur une photo, les images apparaissent progressivement. Donc on est encore dans cette idée d'un réel qui apparaît progressivement, qui surgit progressivement, mais qui est très proche de l'irréel et invisible, proche de l'invisible. On est à la frontière toujours, entre visible et invisible. Quelque chose qui apparaît progressivement, mais qui semble pouvoir toujours repartir dans l'obscurité. On se développait ces ombres d'arbres, légères comme des arbres. Alors ici, les ombres des arbres, elles sont comparées à des arbres, c'est-à-dire à quelque chose d'irréel. Tout d'un coup, ces ombres d'arbres, elles deviennent irréelles. Et les arbres, à quoi est-ce que ça vous fait penser? À la mort et à Albertine. Hein? Donc ici, il y a tout un jeu. Les Albertines semblent apparaître en filigrane dans les ombres de ces arbres, hein? Dans les silhouettes de ces arbres. Tout d'un coup, les ombres d'arbres sont des silhouettes, comme la silhouette d'une femme, et elles sont comme des arbres. Hein, donc, on passe ici à quelque chose d'irréel, on passe à l'au-delà, hein, l'au-delà, on passe à la mort. À travers ces ombres, le narrateur semble franchir le seuil de la mort. On quitte la vie pour rentrer dans la mort. Était une prairie paradisiaque. Ici, l'adjectif paradisiaque, formé sur paradis, nous ramène à nouveau à l'au-delà et à la mort. Comme si Albertine était ici présente, entre la vie et la mort, hein, et que nous-mêmes nous bougions entre vie et mort. Non pas verte, non, la prairie elle n'est pas verte, mais elle est d'un blanc, si éclatant, hein, puisque ici il y a un jeu entre la nappe de neige a été comparée à une prairie verte. Hein, donc on a une comparaison de couleurs fort différente. Et ici il continue sa comparaison. C'est une prairie paradisiaque qui n'est pas verte, puisque c'est un tapis de neige, mais blanc, mais d'un blanc si éclatant. Alors ici le blanc éclatant rappelle aussi le blanc de la transfiguration de l'être après la mort, hein, d'un blanc si éclatant, à cause du clair de lune qui rayonnait sur la neige de jade. Alors, la neige, c'est blanc, ici, la neige est comparée au jade. Et le jade, c'est de couleur verte. Donc on a à nouveau, comme avec la prairie, hein, on n'arrête pas de passer du vert au blanc, à nouveau au vert. Ici, il y a un jeu entre le blanc et le vert, et il y a un jeu entre la neige qui est liquide et le jade qui est solide. Qu'on aurait dit que cette prairie était tissue, hein, comme si la prairie c'était un tissu, elle était l'œuvre d'un tissage. Donc ici, on a l'unique métaphore du texte, et soudain, le paysage semble irréel parce qu'il est l'œuvre d'un tissage. Il semble apparaître comme un objet, hein, quand quelque chose est tissé, c'est un objet, ce n'est pas de la réalité. Et ici, le paysage est tellement irréel qu'il apparaît au narrateur comme un objet, hein, comme un tissage. Et sur les places, les divinités des fontaines publiques. Alors, normalement, il y a des sculptures sur les fontaines publiques qui représentent des divinités. Et ici, le narrateur utilise immédiatement ce que ces sculptures représentent, c'est-à-dire des divinités, pour en parler comme d'êtres vivants. Hein, il inverse les termes. Tenant en main un jet de glace, avait l'air de statues. Alors normalement, c'est des statues qui représentent des divinités. Et ici, il dit les divinités ont l'air de statues. Hein, donc il inverse le comparant et le comparé. Et ici aussi, on a un jeu sur l'absence-présence, la vie et la mort. La statue rigidifiée est d'abord présentée comme vivante. D'une matière double pour l'exécution desquelles l'artiste avait voulu marier exclusivement le bronze au cristal. Par ces jours exceptionnels, toutes les maisons étaient noires. Donc ici, on revient à ce que le narrateur voit, qu'il y a dans les rues de Paris, et à cause du couvre-feu, toutes les maisons sont noires, on est dans l'obscurité de la nuit. Mais au printemps, au contraire, parfois, de temps à autre, donc transposition dans une autre situation, parfois, au printemps, même lorsqu'il y a un couvre-feu, certaines personnes laissent leurs fenêtres allumées. Certaines personnes, malgré l'interdiction d'allumer, laissent la lumière allumée. Mais au printemps, au contraire, parfois de temps à autre, bravant les règlements de la police, cela veut dire transgressant le règlement, hein, qui est de tout éteindre, un hôtel particulier, ou seulement un étage d'un hôtel, ou même seulement une chambre d'un étage, n'ayant pas fermé ses volets, apparaissait, ayant l'air de se soutenir tout seul, sur d'impalpables ténèbres. Hein? Donc, parfois, une seule personne, au printemps, a laissé ses volets ouverts, donc tout est noir partout, mais il y a, on voit juste une tache de lumière. Et c'est pour ça que le narrateur dit, on a l'impression que cette tache de lumière est soutenue par les ténèbres impalpables. Et ici, il y a l'idée que le réel devient immatériel, qu'on ne peut pas le toucher, hein, qu'on ne peut pas le palper, c'est rendu par l'adjectif impalpable. Donc ici, tout d'un coup, on passe à l'idée qu'on est dans une sorte d'apparition, l'apparition d'une lumière, et qu'on est au seuil entre le réel et l'irréel, parce que cette chambre qui apparaît éclairée, elle ne se donne à nous que sous la forme d'une lumière, sur fond de ténèbres impalpables. Cette lumière, non seulement on ne peut pas la toucher, mais en plus la réalité est devenue inconsistante, puisqu'elle est impalpable. Vous comprenez impalpable ? Ça vient du verbe palper, toucher. Donc ici, les ténèbres sont impalpables. La réalité semble avoir perdu sa consistance et le fait de ne voir qu'une lumière jaune se détacher sur un fond d'obscurité, cela rappelle aussi le développement, la projection d'une image cinématographique. Hein, le cinéma fait projeter une lumière, quelque chose de lumineux, une image lumineuse dans une salle tout obscure. Et ici, la réalité semble apparaître sous un prisme cinématographique, ce qui augmente le fait que l'on est à la frontière entre le réel et l'irréel, puisque l'image cinématographique, elle est irréelle. Donc ici, tout d'un coup, le réel semble devenir cinématographique, donc perdre sa consistance. Il semble n'être plus qu'une projection, comme dans une salle de cinéma.
Et peut-être c'est aussi l'au-delà qui est montré par...
Tout à fait, c'est exactement ce à quoi on va venir, cette remarque est très juste, c'est ce à quoi on va arriver.
Vous l'avez dit hier, et
la lumière semble être aussi progressivement dans le texte une lumière qui se détache sur des ténèbres impalpables, donc une lumière qui vient de l'au-delà, puisque ces ténèbres semblent obscurcir la réalité et ont fait perdre la matérialité de cette réalité. Très bien. Je continue. Comme une projection purement lumineuse, donc ici on est dans l'image exactement cinématographique. Cette fenêtre allumée, elle n'est plus réelle, elle est juste une image projetée sur un écran dans le noir, comme au cinéma. Comme une apparition sans consistance. Alors, ici, le réel, on a carrément basculé dans le fait que le réel n'est plus réel, c'est une apparition. Qu'est-ce qui nous apparaît? Ce qui nous apparaît, ce sont les êtres qui nous apparaissent de l'au-delà. Et ici, on est complètement rentré dans l'hallucination du narrateur, qui a comme une vision d'Albertine. Il n'est plus dans, au début, dans le fantasme du début, où il est dans des rues bien concrètes, la rue Bar de la rue Sainte-Clotilde, etc. Et dans ces rues bien concrètes, il imagine Albertine. Ici, son cheminement dans ces rues sombres lui en fait progressivement perdre la frontière entre le réel et l'irréel. Et il voit les ténèbres qui l'entourent, il les voit comme quelque chose d'en même temps irréel, qui vont, du fait que ces ténèbres ont franchi la frontière de l'irréel, ils lui rendent réelle la présence de Albertine qui était réelle puisqu'elle est morte. Et donc on passe du fantasme à l'apparition, à la vision, à l'hallucination. Puisqu'à la fin, on n'est plus dans des rues concrètes, on est dans un décor qui a perdu sa consistance et qui va pouvoir devenir comme une membrane entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc lui rendre la présence d'Albertine. Ça va, c'est bien clair? Oui? Oui, j'ai entendu non? J'ai mal entendu. Une voix de l'au-delà. Et la femme, qu'en levant les yeux bien haut, on distinguait dans cette pénombre dorée. Alors, cette femme, de qui parle-t-il? D'Albertine. Alors, il y a ici une ambiguïté qui reste volontaire. On ne sait pas si, puisque là il était en train de décrire l'apparition, il était en train de décrire le fait qu'une personne a laissé sa fenêtre allumée. Donc ça pourrait être une personne qu'il voit à ce moment-là, qu'on voit à sa fenêtre parce qu'elle a laissé sa lumière allumée. Mais il y a bien sûr une ambiguïté, puisque cette femme semble être Albertine, qui lui est rendue ici sous la forme d'une vision. Donc il ne l'imagine plus, et ici, vous voyez, ce n'est plus la robe du début. Au début, il voyait un spectre sous la forme de la robe, comme un fantôme, et là, il a la femme. La femme qui lui est rendue sous la forme d'une vision. Et la femme qu'on est là, on distinguait dans cette pénombre dorée. Pénombre dorée, il y a aussi une oxymore, puisqu'on a à la fois l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, dans cette pénombre dorée, qui nous rend toute la force de l'apparition d'Albertine qui apparaît au seuil de l'ombre de la mort et du jour de la vie. Elle se tient à ce seuil, cette apparition d'Albertine. Entre le réel et l'irréel, entre la présence et l'absence, le visible et l'invisible. Eh bien, toute la force de ce texte qui joue sur présence-absence, sur cette obscurité-lumière, est donnée dans la forme oxymorique pénombre dorée. Prenez dans cette nuit où l'on était perdu et où elle-même semblait recluse. Alors là, il y a un développement magnifique dans cette phrase. Dans cette nuit où l'on était perdu. Donc ici, c'est la nuit où le narrateur est perdu. On est perdu dans cette nuit parce qu'il fait noir, parce que c'est l'obscurité, on ne voit plus rien, donc on est perdu. Où elle-même semblait recluse. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit, recluse, ça veut dire enfermée. Eh bien, cette nuit, la nuit, en fait, a servi de métaphore et de lieu de transposition au narrateur, parce que cette nuit où lui-même il se trouve, c'est aussi la nuit de la mort où Albertine est enfermée. Et donc, dans cette proposition de phrase, juste dans ce petit bout de phrase, le narrateur se rend présent à Albertine par l'intermédiaire de la nuit. Parce que ce qui est commun à Albertine et au narrateur, c'est qu'il se trouve dans l'obscurité. Le narrateur est dans l'obscurité de la nuit, et Albertine, elle est recluse, enfermée, dans l'obscurité de la mort. Et donc l'obscurité de cette nuit peut rendre Albertine et le narrateur présents à la même réalité. C'est une réalité irréelle. Où elle-même semblait recluse, le charme mystérieux et voilé d'une vision d'Orient. Donc ici, il fait allusion carrément à une vision, après avoir parlé d'apparition. Donc on est dans un registre mystique, comme si apparition et vision, on en parle lorsque quelqu'un, un saint, a une apparition de la Vierge Marie ou du Christ. Et on dit qu'il a une vision. Et ici, le narrateur adopte un vocabulaire mystique pour parler de Albertine, parce que Albertine, la présence d'Albertine lui est rendue sous la forme d'une vision, comme si elle revenait du monde de la mort et qu'il avait une vision, comme s'il avait une vision du Christ. Il a une vision d'Albertine revenant de la mort. Puis on passait, et rien n'interrompait plus l'hygiénique et monotone piétinement rustique dans l'obscurité. On retourne à la réalité. La vision est terminée, mais on ne sait pas la vision si elle continue le chemin avec lui dans ce « on » ou si elle reste derrière lui. Tout au long de ce texte, le narrateur cherche à faire revivre la présence d'Albertine, et si au début du texte, il fantasme sur sa présence, eh bien, ce fantasme devient, à la fin du texte, une vision, une apparition, comme une hallucination. À la fin du texte, Albertine est devenue réellement, lui est rendue sous la forme d'une vision. Elle n'est plus que dans son imagination. Et vous noterez qu'à la fin du texte, on est à l'indicatif, alors qu'on était au conditionnel au début du texte. Alors, je vais donner quelques éléments pour le commentaire de ce texte. Donc, ce texte, je donne quelques éléments et on verra le plan du texte la semaine prochaine. Ce texte, il appartient à la seconde partie du roman. C'est une évocation de Paris en guerre. Et donc, Paris en guerre est soumise au couvre-feu, ce qui explique que c'est très impressionnant de marcher dans une rue d'une ville la nuit. S'il n'y a aucune lumière venant des carreaux des gens, des fenêtres des gens, on est dans l'obscurité la plus totale. Et ça, c'est très important pour aborder le texte, de comprendre que le narrateur marche dans l'obscurité totale, puisque cette obscurité de Paris en guerre, sans les lumières des fenêtres qui sont interdites, va le rendre proche d'Albertine en rapprochant l'obscurité de la nuit à l'obscurité de la mort. Et donc, la problématique générale du texte, c'est est-ce que les comparaisons qui vont être faites tout au long du texte, on va, le narrateur ne cesse de comparer, de faire des comparaisons pour parler de, enfin, pour décrire la ville qu'il traverserait s'il était en présence d'Albertine. Et la question, c'est est-ce que ces comparaisons progressives vont nous permettre d'aller vers du visible. Il compare cette ville qu'il voit dans le noir, et il donne plein de comparaisons pour nous la faire comprendre, et la question c'est est-ce qu'on va aller vers du visible. Donc dans un texte comme ça, il faut commencer par analyser toutes les comparaisons, et ce que l'on peut voir, c'est que il y a un système de comparaison qui fonctionne avec des éléments de la nature. La ville est comparée systématiquement à des éléments de la nature, et ces comparaisons vont renvoyer progressivement à des formes d'invisibilité, que ce soit les ombres des arbres, hein, ou que ce soit des choses qui évoquent l'au-delà, comme l'arbre. Il faut, dans un texte comme ça, relever toute la façon dont les comparaisons sont introduites. Les comparaisons, elles sont introduites par faire croire que, avoir l'air de, on aurait dit que, faire l'effet de, prendre, quand on dit la femme prenait dans cette nuit, le charme mystérieux. On fait une comparaison entre la femme et le charme mystérieux. Et ici, la comparaison est introduite par le verbe prendre. Sembler. Oui. Sembler. Avec que, quand on dit, avec la délicatesse qu'elles ont dans les tableaux de machin, on compare la nuit à la nuit dans les tableaux. On fait une comparaison qui est introduite par avec que. Il n'y a qu'une seule métaphore dans le texte, c'est lorsque la nuit, le manteau de neige est comparé sous forme de métaphore à un tableau tissé. Hein, et qu'il est dit, la prairie est tissue comme. Ensuite, les divinités font une allégorie. Les divinités des statues, elles font une allégorie et elles deviennent progressivement réelles. Donc, le narrateur compare les statues, il compare les divinités à ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire les statues. Hein, on a vu ça, il inverse les choses. Donc, pour dire une chose, il commence par l'allégoriser, par la personnifier, et ainsi, il renvoie l'objet à ce qu'il est réellement. Il inverse le comparé et le comparant. Il faut voir aussi dans ces phrases comment la métaphore imbrique. Vous comprenez le verbe imbriquer ? Imbriquer ? Alors, Alors, je n'ai pas un exemple là de choses imbriquées. Personne ne comprend quand une chose est prise dans une autre, comme ça. Hein, là, le stylo est imbriqué dans mes mains. Ça veut dire qu'il est pris dedans. Le début du stylo et la fin du stylo est pris dans un contenant plus grand. Le stylo est imbriqué dans mes mains. Très bien, merci. Et donc ici, il faut voir comment est-ce que les métaphores imbriquent. La structure même des phrases crée des imbrications à un autre mot, ce serait le mot emboîtement, comme des matrioshkas. Hein? Les matrioshkas, elles sont imbriquées les unes dans les autres, ou emboîtées les unes dans les autres, ou encore un autre verbe, enchâssées les unes dans les autres. dans tout ce texte, Albertine, elle se manifeste au début comme un fantasme, mais il a la volonté de rendre cette absence, ce fantasme, cette présence fantasmée, il voudrait la rendre réellement présente, hein, donc faire passer l'absente vers la présence, hein, rendre l'absente présente, et c'est ce qui va guider toute la thématique du texte. Rendre l'invisible, l'absente, présente. Et donc ce mode-là, cette ouverture, va déterminer tout le rapport du texte à l'invisibilité. Le texte cherche à rendre visible l'invisible. Et à la fin du texte, effectivement, Albertine, il finit par la voir. Elle n'est plus invisible, il la voit puisqu'il a une vision. Et ce qui est important, intéressant, c'est de voir qu'il y a des échos dans le texte, puisqu'il était question à un moment d'invisibilité, il a parlé d'invisible, et à la fin du texte, il parle d'une vision. Donc il emploie deux fois le mot formé sur la racine du verbe voir, videre, visus en latin, hein, la vision, et il montre qu'il passe de l'invisibilité à la vision. Tout ce qui est fantomal résulte de cette convocation de la morte. Hein. Le texte convoque la morte pour rendre sa présence, qui au début est fantomale et à la fin est bien plus forte, c'est une vision. Donc on passe du fantasme à la vision. Donc à la fin du texte, quelque chose s'est accompli. Hein, ça vous avez bien compris, je pense. Progressivement, on est passé de l'invisibilité à la visibilité. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'analyser le système qui nous fait passer de l'invisibilité à la visibilité. Ce système, c'est quoi? Comment fonctionne le texte? Quelle est la figure qui revient en permanence dans le texte? C'est le pardon?
Le mode originel.
Alors, il y a le mode, effectivement, le mode verbal. Il y a, mais ce n'est pas une figure, le mode verbal. Alors, il y a la personnification, mais la personnification, en fait, on la voit une fois dans la statue. Il y a une autre figure. Il y a les arbres, effectivement, mais le fait de personnifier les arbres, ça peut être englobé dans une figure plus générale, qui est la figure de là, vous avez entendu là, en fait. Comparer, voilà. Tout le texte fonctionne par comparaison. Hein, effectivement, personnifier l'arbre, l'arbre est personnifié parce qu'il est comparé à une silhouette de femme. Donc, tout le texte fonctionne par une comparaison. Et ce qui est très important, c'est de voir que c'est par un réseau de comparaisons successives que l'invisible, à force d'être comparé, va arriver à être visible. Donc, ici, tout en montrant une qui est intéressante, c'est que la comparaison, elle indique une réalité, donc ça on l'a vu, elle indique qui est semblable entre une réalité et une autre, hein, quand on compare, mais en même temps, la comparaison introduit toujours quelque chose de différent. Elle montre aussi la différence. Hein. Vous vous souvenez? J'ai pas besoin de revenir sur cette idée. On l'avait déjà bien vu. Hein, donc,
quand il a commencé à expliquer sur qui c'est la comparaison, il a commencé
à faire
cette impression que deux sujets sont différents.
Voilà, exactement. Donc on l'a revu, tout le monde n'était pas forcément là, sous le cours de Stéphane Saint-Noyau. Alors, je crois qu'on l'a revu ensemble. Soit je lui demande si tout le monde était bien là, si vous n'avez pas besoin que je reprenne. Donc, le fait d'introduire de la différence par la comparaison, va permettre progressivement de transformer l'invisible pour le rendre visible. Ainsi, en disant que l'un est comme l'autre, on va créer progressivement des transformations où on va passer d'un paysage à l'autre et au final, on va passer d'un monde à l'autre, de l'au-delà à la Terre, de la Terre à l'au-delà, hein, par un réseau de comparaisons. Ainsi, on peut dire que dans ce texte, oui, c'est la craie, c'est parce que j'ai touché une craie. Dans ce texte, l'accumulation des comparaisons crée des transformations qui aboutissent à quelque chose qui est une transformation radicale. Qu'est-ce qu'une transformation radicale ? Oui, je l'ai entendu, dites-le plus fort. Une métamorphose. Hein? Quand on fait une comparaison d'une chose à une autre, on ne la transforme pas. Mais en même temps, on montre ce qu'il y a de différent entre une chose et une autre. Quand on compare une chose à beaucoup d'autres choses, on finit par la transformer. Si je dis Nadia est comme une fleur, elle est comme une prairie, elle est comme la neige, elle est, hein, je finis par la transformer, Nadia, à force de la comparer. Et au final, cette accumulation de transformation va finir par rendre Nadia complètement différente de ce qu'elle était au début. Et on va finir par la métamorphoser. Et ici, c'est ce qui se passe dans le texte. À force de cette accumulation de transformation, le réel est métamorphosé, hein, et il peut faire place à l'irréel de l'au-delà. Donc, cette métamorphose, elle permet la vision de la morte en vivante. Et alors, tout cela s'accompagne dans le texte, quel est le cadre général et qui sert d'image de fond à toute cette apparition de la morte en vivante. La nuit, très bien. Et le fait que tout le texte, dans tout ce texte, le réel semble venir se détacher de l'obscurité, parce qu'on est dans l'obscurité de la nuit. Et en effet, Proust s'est beaucoup intéressé à la perception des choses sur un écran, donc à l'art cinématographique. Et ici, le réel finit par devenir un réel de cinéma. Hein, et dans le réel de cinéma, et bien, on peut faire dire tout ce qu'on veut. Donc on peut rendre les morts vivants. Et ici, tout le réel, toute la ville apparaît toujours sur ce fond noir sur lequel apparaissent des visions. Et donc, vous voyez, de ce contexte très concret d'un homme qui marche dans la ville qui est dans le noir, eh bien, on va arriver à une métamorphose progressive où le noir de la ville va apparaître comme le noir de la mort, d'où la vision d'une morte va pouvoir apparaître en vivante. Alors, je vais vous dire rapidement le plan, un plan de commentaire. Grantin, un art de la transposition. Grantin, un art de la transposition. Petit 1, un lieu pour un autre. Dans le texte, on ne cesse d'aller d'un lieu vers un autre. Petit 2, une femme pour une autre. Puisqu'à la fin du texte, la femme, on ne sait pas si c'est une femme réelle que le narrateur, en se promenant dans la ville, pourrait voir apparaître dans l'embrasure de sa fenêtre, ou si c'est une vision d'Albertine. Pardon, excusez-moi. Le grand 1, c'était excusez-moi. C'était... Pardon, là je viens de vous dire le grand 2. Grand 1, c'est description d'une absence. Pardon, excusez-moi, hein, je me suis embrouillée dans mes feuilles. Grand 1, description d'une absence. Petit 1, la femme absente, hein, puisque l'absente, c'est Albertine. Petit 2, la ville absente. La ville, elle est absente parce qu'elle est plongée dans l'obscurité à cause du couvre-feu. Et oui, bien sûr, petit 1, la femme absente. Petit 2, la ville absente. Donc, à la fois, la ville est absente parce qu'elle est plongée dans le noir, concrètement, et en plus, parce qu'elle va être progressivement comparée à la campagne. Le narrateur va s'en éloigner. Donc, progressivement, on va être éloigné du référent de Paris. Petit 3, tout ce qui renvoie aux manifestations de l'absence, les ombres, les silhouettes, les présences de l'invisible. Tout ce qui renvoie aux manifestations de l'absence, ombre, silhouette et invisible. Et donc, sur le fond de cette indistinction entre présence et absence, hein, on ne distingue plus ce qui est présent et ce qui est absent. C'est ça la première chose que l'on remarque dans ce texte, hein, donc on en fait notre grand 1, c'est qu'on ne sait pas ce qui est présent ou absent. Albertine, est-ce qu'elle est présente ou pas? La ville, est-ce qu'on est dans la ville ou est-ce qu'on est dans la campagne? Albertine, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est vivante? Les silhouettes des arbres, est-ce que c'est une présence d'Albertine ou est-ce que c'est des ombres des arbres, hein, on ne distingue plus ce qui est présent et ce qui est absent. Et c'est ce qui va permettre de construire un art de la transposition. Donc, grand 2, un art de la transposition. Petit 1, un lieu pour un autre, hein, puisque Paris est transposé à la campagne, la campagne est transposée à Paris. À un moment, Paris va devenir Tansonville, ensuite Combray, ensuite Balbec, ensuite les Alpes. Alors ça va? Un lieu pour un autre, Paris est en permanence transposé en un autre lieu. Ensuite, petit 2, une femme pour une autre, donc c'est ce que je vous ai décrit. Une femme pour une autre, tiens, ça va?
Vous avez... C'est le plan
que tu fais. Oui, tout à fait, mais c'est ce que je reprends là. Oui, bien sûr, parce que tout le monde n'était pas là au cours de Tiffany Samoyo. Et justement, vous pouvez en profiter pour poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, ici, on amène trois... dans cette vision, on amène trois femmes absentes, hein, trois femmes qui sont l'une pour l'autre. Dans cette dernière image avec la vision d'Orient. On a, est-ce que c'est la femme qui apparaît dans l'embrasure de la fenêtre? Est-ce que c'est Albertine? Ou est-ce que c'est une femme des mille et une nuits, hein, dans l'idée de la vision d'Orient? Donc, dans le texte, pour conclure, on passe d'un fantasme à une vision. Et on en arrive au grand 3, une esthétique de la métamorphose, qui nous fait nous interroger sur la question du réel en art. C'est la question qui est au cœur de la recherche du temps perdu. Puisque le réel de l'art n'est pas le réel du réel. Hein, ce n'est pas le réel que l'on voit dans la vie de tous les jours, c'est un autre réel. Ainsi, tout le texte, donc petit 1, question du réel en art, petit 2, réflexion sur le réel en art qui se fait dans ce texte de façon implicite. Tout ce texte nous fait réfléchir sur une autre forme de réel qui n'est pas le réel que l'on voit, le réel de l'apparence, mais qui est ce qui est donc le réel immédiatement sensible, mais qui est un réel dissimulé que l'on ne voit que lorsque l'on passe au-delà des apparences. Ainsi, petit 3, ce réel est celui des images de cinéma. Toutes les images de cinéma permettent de dire une vérité du réel invisible dans l'observation de la simple surface. Toutes les images du cinéma permettent de dire une vérité du réel qui est invisible dans l'observation de la simple surface. Le vrai n'apparaît que dans une métamorphose du réel apparent. Le vrai n'apparaît que dans une métamorphose du réel apparent. Ainsi, ce texte, il ne contient pas un propos philosophique, mais il permet de penser quelque chose par ses propres moyens, qui sont l'art de la transposition. Hein, on a une pensée ici qui apparaît de façon littéraire à travers l'art de la transposition. Ainsi, ce texte porte une pensée et conduit une pensée. Donc, il remplit les fonctions de la philosophie. Et ici, hein, Stéphane Samoyo avait suggéré que l'on parle de littérature, car la littérature fait la même chose que la philosophie, mais avec d'autres moyens. Est-ce que vous avez des questions concernant ce texte ou la méthode du commentaire ? Les trois parties du grand 3 ? Oui ? Alors, petit 1, la question du réel en art, le réel de l'art n'est pas le réel du réel. Petit 2, ce texte propose une réflexion implicite sur la question du réel en art, deux points. Le réel n'est pas l'apparence, ce qui est immédiatement sensible. Le réel se révèle au-delà de l'apparence. Et petit 3, une réflexion sur le réel des images de cinéma, hein, puisque l'idée du cinéma, de l'image cinématographique est présente dans tout le texte. Hein, donc toutes les images de cinéma permettent de dire une vérité du réel invisible. Hein, permettre de passer du visible à l'invisible. Alors, c'est bon ? Alors, avant de ranger vos affaires, donc la semaine prochaine, aujourd'hui, on a revu le deuxième séminaire de Stéphane Samoyo, hein, pour les gens qui n'y avaient pas assisté, et on l'a approfondi. La semaine prochaine, on verra le troisième séminaire de Stéphane Samoyo, ainsi que on fera un bilan général sur Deleuze, hein, sur tout ce qui est la dimension philosophique de l'analyse chez Proust. Alors, pour la semaine prochaine, je vais vous envoyer un texte sur lequel vous réfléchirez. Donc, c'est les deux plans de commentaires qui ont été proposés par Stéphane Samoyo, qu'on avait vu au troisième séminaire. Vous proposerez une introduction et une conclusion à ces commentaires, donc vous les trouverez sur le mail du cours. Vous faites ça pour la semaine prochaine. Vous n'avez pas bien compris, mademoiselle ? Alors, je vais vous envoyer les plans des commentaires proposés par Stéphane Samoyo et vous en donnerai une introduction et une conclusion. Hein ? Et on sera... ça, il ne faudra pas faire le commentaire parce que je vous en donnerai déjà le plan. Il faudra proposer une introduction et une conclusion. Et on fera un bilan général sur Proust, et puis on verra tout ce qui est l'approche philosophique de Proust par Deleuze. Voilà, je vous remercie, passez une bonne semaine, à vendredi prochain.